Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. L'art d'être grand-père, 9e partie, les fredaines du grand-père-enfant. Pépita. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 9e partie, les fredaines du grand-père-enfant, Pépita. Comme elle avait la résille, d'abord la rime hésita. Ce devait être Inésille. Mais non, c'était Pépita. 16 ans. Belle et grande fille. Ici la rime insista. Rimeur, c'était Inésille. Rime, c'était Pépita. Pépita, je me rappelle. Oh, le doux passé vainqueur. Tout le passé, pêle-mêle, revient à flot dans mon cœur. Mère, ton flux roule et rapporte les varechs et les galets. Mon père avait une escorte, nous habitions un palais. Dans cette Espagne que j'aime, au point du jour, au printemps, quand je n'existais pas même, Pépita, j'avais 8 ans, me disait « Fils, je me nomme Pépa, mon père est marquis. » Moi je me croyais un homme, étant en pays conquis. Dans sa résille de soie, Pépa mettait des doublons. De la flamme et de la joie sortaient de ses cheveux blonds. Tout cela, jupe de moire, veste de toréador, velours bleu, dentelle noire, dansait dans un rayon d'or. Et c'était presque une femme que Pépita, mes amours. L'indolente avait mon âme sous son coude de velours. Je palpitais dans sa chambre comme un nid près du faucon. Elle avait un collier d'ambre, un rosier sur son balcon. Tous les jours, un vieux qui pleure venait demander un sou. Un dragon, à la même heure, arrivait je ne sais d'où. Il piaffait sous la croisée, tandis que le vieux râlait, de sa vieille voix brisée. « La charité, s'il vous plaît !» Et la belle au collier jaune, se penchant sur son rosier, faisait au pauvre l'aumône pour la faire à l'officier. L'un plus fier, l'autre moins sombre, il partait. Le vieux hagard emportant un sou dans l'ombre, et le dragon un regard. J'étais près de la fenêtre, tremblant, trop petit pour voir, amoureux sans m'y connaître, et bête sans le savoir. Elle disait avec charme, « Marions-nous !» choisissant pour amoureux le gendarme et pour mari l'innocent. Je disais quelques sottises. Pépa répondait « Plus bas !» m'éteignant comme en attise, et... Pendant ces 12 ébats, les soldats buvaient des pintes et jouaient aux dominos dans les grandes chambres peintes du palais Macerano. Fin de Les Fredaines du grand-père-enfant. L'art d'être grand-père, 10e partie, enfants, oiseaux et fleurs. J'aime un groupe d'enfants qui rit et qui s'assemble. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 10e partie. Enfants, oiseaux et fleurs. J'aime un groupe d'enfants qui rit et qui s'assemble. J'aime un groupe d'enfants qui rit et qui s'assemble. J'ai remarqué qu'ils sont presque tous blonds. Il semble qu'un doux soleil levant leur dore les cheveux. Lorsque Roland, rempli de projets et de vœux, était petit, après l'escrime et les parades, il jouait dans les champs avec ses camarades, Raymond le paresseux et Jean de Pau, tous trois joyeux. Un moine un jour, passant avec sa croix, leur demanda, C'était l'abbé de la contrée. « Quelle est la chose, enfant, qui vous plaît déchirée ?»«
La chair d'un bœuf saignant, » répondit Jean de Pau.
« Un livre, » dit Raymond.
Roland dit « Un drapeau ».
Fin de « J'aime un groupe d'enfants qui rient et qui s'assemblent ».« L'art d'être grand-père, 10e partie, enfants, oiseaux et fleurs. Je suis des bois, l'hôte fidèle. » Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. « L'art d'être grand-père » de Victor Hugo, 10e partie, enfants, oiseaux et fleurs. Je suis des bois, l'hôte fidèle.
Je suis des bois, l'hôte fidèle, le jardinier des sauvageons. Quand l'automne vient, l'hirondelle me dit tout bas « Déménageons !» Après Frimaire, après Nivose, je vais voir si les bourgeons frais n'ont pas besoin de quelque chose et si rien ne manque aux forêts. Je dis aux ronces « Croissez, vierge !» Je dis « Embaume, aux serpolets !» Je dis aux fleurs bordant les berges « Faites avec soin votre ourlet !» Je surveille, entr'ouvrant la porte, le vent soufflant sur la hauteur, car trompé sur ce qu'il apporte, c'est l'usage de ce menteur. Je viens dès l'aube, en diligence, voir si rien ne fait dévier toutes les mesures d'urgence que prend avril contre janvier. Tout finit, mais tout recommence. Je m'intéresse au procédé de rajeunissement immense, vainement par l'ombre éludé. J'aime la broussaille mouvante, le lierre, le lichen vermeil, toutes les coiffures qu'invente pour les ruines le soleil. Quand mes fleuris met des panaches au sombre donjon mécontent, je crie à ces vieilles ganaches « Laissez donc faire le printemps !» Fin de « Je suis des bois, l'hôte fidèle ».
L'art d'être grand-père, 10e partie, enfants, oiseaux et fleurs, dans le jardin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 10e partie, enfants, oiseaux et fleurs, dans le jardin. Jeanne et Georges sont là. Le noir ciel orageux devient rose et répand l'aurore sur leur jeu. Oh! Beau jour. Le printemps auprès de moi s'empresse, tout verdit. La forêt est une enchanteresse. L'horizon change, ainsi qu'un décor d'opéra. Appelez ce doux mois du nom qu'il vous plaira, c'est mai, c'est floréal, c'est l'hyménée auguste de la chose tremblante et de la chose juste, du nid et de l'azur, du brin d'herbe et du ciel. C'est l'heure où tout se sent vaguement éternel. C'est l'éblouissement, c'est l'espoir, c'est l'ivresse. La plante est une femme, et mon vers la caresse. C'est, grâce au frais glaïeul, grâce au pur liseron, la vengeance que nous, poètes, nous tirons de cet affreux janvier si laid. C'est la revanche qu'avril contre l'hiver prend avec la pervenche. Courage, avril. Courage, ô mois de mai. Ciel bleu, réchauffe, resplendis, sois beau. Bravo, bon Dieu. Ah, jamais la saison ne nous fait banqueroute. L'aube passe en semant des roses sur sa route. Flamme, ombre, tout est plein de ténèbres et d'yeux. Tout est mystérieux et tout est radieux. Qu'est-ce que l'Alcyon cherche dans les tempêtes? L'amour, l'antre et le nid ayant les mêmes fêtes, je ne vois pas pourquoi l'homme serait honteux de ce que les lions pensifs ont devant eux, de l'amour, de l'hymen sacré, de toi, nature. De tout cachot aboutit à la même ouverture, la vie, et toute chaîne, à travers nos douleurs, commence par l'airain et finit par les fleurs. C'est pourquoi nous avons d'abord la haine infâme, la guerre, les tourments, les fléaux, puis la femme. La nuit n'ayant pour but que d'amener le jour. Dieu n'a fait l'univers que pour faire l'amour. Toujours, comme un poète aime,
comme les sages n'ont pas deux vérités et n'ont pas deux visages, j'ai laissé la beauté, fière et suprême attrait, vaincre et faire de moi tout ce qu'elle voudrait. Je n'ai pas plus caché devant la femme nue mes transports que devant l'étoile sous la nue et devant la blancheur du cygne sur les eaux. Car dans l'azur sans fond, les plus profonds oiseaux chantent le même chant, et ce chant, c'est la vie. Sois puissant, je te plains. Sois aimé, je t'envie. Fin de Dans le jardin. L'art d'être grand-père, 10e partie, Enfants, oiseaux et fleurs. Le trouble fête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 10e partie, Enfants, oiseaux et fleurs. Le trouble fête. Les belles filles sont en fuite et ne savent où se cacher. Brunes et blondes, grandes et petites, elles dansaient près du clocher. Une chantait pour la cadence, les garçons aux fraîches couleurs accouraient au bruit de la danse, mettant à leur chapeau des fleurs. En revenant de la fontaine, elles dansaient près du clocher. « J'aime Toinon, » disait le chêne. « Moi, Suzon, » disait le rocher. Mais l'homme noir du clocher sombre leur a crié « L'aide, fuyez !» Et son souffle brusque a dans l'ombre éparpillé ses petits pieds. Toute la danse s'est enfuie, les yeux noirs avec les yeux bleus, comme s'envole sous la pluie une troupe d'oiseaux frileux. Et cette déroute a fait taire les grands arbres tout soucieux, car les filles dansant sur terre font chanter les nids dans les cieux. « Qu'a donc l'homme noir ? » disent-elles. Plus de chants, car le noir témoin a fait bien loin enfuir les belles, et les chansons encore plus loin. « Qu'a donc l'homme noir ? » ?»« Je l'ignore, » répond le moineau, gai bandit. Elles pleurent comme l'aurore, mais un myosotis leur dit « Je vais vous expliquer ces choses. Vous n'avez point pour lui d'appât. Les papillons aiment les roses, les hiboux ne les aiment pas. » Fin de Le trouble fête. L'art d'être grand-père, 10e partie, Enfants, oiseaux et fleurs. Aura Ama. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 10e partie, Enfants, oiseaux et fleurs. Aura Ama. Le long des berges court la perdrix au pied leste. Comme pour l'entraîner dans leur danse céleste, les nuages ont pris la lune au milieu d'eux. Petit Georges, veux-tu ? Nous allons tous les deux nous en aller jouer là-bas, sous le vieux saule. La nuit tombe. Horry se baigne et, la faux sur l'épaule, le faucheur rentre au gîte, essuyant sa sueur. Le crépuscule jette une vague lueur sur des formes qu'on voit rire dans la rivière. Monsieur le curé passe et ferme son bréviaire. Il est trop tard pour lire, et ce reste de jour conseille la prière à qui n'a plus l'amour. Aimer, prier, c'est l'aube, et c'est le soir de l'âme. Et c'est la même chose au fond. Aimer la femme, c'est prier Dieu. Pour elle, on s'agenouille aussi. Un jour, tu seras homme et tu liras ceci. En attendant, tes yeux sont grands et je te parle, mon Georges, comme si je parlais à mon Charles. Quand l'aile rose meurt, l'aile bleue à son tour. La prière a la même audace que l'amour, et l'amour a le même effroi que la prière. Il fait presque grand jour encore dans la clairière. L'Angélus sonne au fond de l'horizon bruni. Ô ciel sublime, sombre édifice infini, muraille inexprimable, obscure et rayonnante. Ô, comment pénétrer dans la maison tenante? Le jeune homme est pensif, le vieillard est troublé, et devant l'inconnu, vaguement étoilé, le soir tremblant ressemble à l'aube frissonnante. La prière est la porte, et l'amour est la clé. Fin de Hora Ama. L'art d'être grand-père, 10e partie, enfant, oiseau et fleurs. La mise en liberté. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 10e partie, enfant, oiseau et fleurs. La mise en liberté. Après ce rude hiver, un seul oiseau restait dans la cage où jadis tout un monde chantait. Le vide s'était fait dans la grande volière. Une douce mésange, autrefois familière, était là, seule, avec ses souvenirs d'oiseaux. N'être jamais sans grain, sans biscuit et sans eau, voir entrer quelquefois dans sa cage une mouche, c'était tout son bonheur. Elle en était farouche. Rien, pas même un serin et pas même un pierrot. La cage, c'est beaucoup. Mais le désert, c'est trop. Triste oiseau, dormir seul et, quand l'aube s'allume, être seul à fouiller de son bec sous sa plume. Le pauvre petit être était redevenu sauvage, à faire ainsi tourner ce perchoir nu. Il semblait par moments s'être donné la tâche de grimper d'un bâton à l'autre sans relâche. Son vol paraissait fou, puis soudain le reclus se taisait et, caché, morne, ne bougeait plus. À voir son gonflement lugubre, sa prunelle et sa tête ployée en plein jour sous son aile, on devinait son deuil, son veuvage, et l'ennui du joyeux chant de tous dans l'ombre évanouie. Ce matin, j'ai poussé la porte de la cage. J'y suis entré. Deux mâts, une grotte, un bocage, meublent cette prison où frissonne un jet d'eau, et l'hiver on la couvre avec un grand rideau. Le pauvre oiseau, voyant entrer ce géant sombre, a pris la fuite en haut, puis en bas, cherchant l'ombre, dans une anxiété d'inexprimable horreur. L'effroi du faible est plein d'impuissante fureur. Il voletait devant ma main épouvantable. Je suis, pour le saisir, monté sur une table. Alors, terrifié, vaincu, jetant des cris, il est allé tomber dans un coin. Je l'ai pris. Contre le monstre immense, hélas, que peut l'atome? À quoi bon résister quand l'énorme fantôme vous tient captif, hagard, fragile et désarmé? Il était dans mes doigts inertes, l'œil fermé, le bec ouvert, laissant pendre son cou débile. L'aile morte, muet, sans regard, immobile, et je sentais bondir son petit cœur tremblant. Avril est de l'aurore un frère ressemblant. Il est éblouissant, ainsi qu'elle est vermeille. Il a l'air de quelqu'un qui rit et qui s'éveille. Or, nous sommes au mois d'avril, et mon gazon, mon jardin, les jardins d'à côté, l'horizon, tout, du ciel à la terre, est plein de cette joie, qui dans la fleur embaume et dans l'astre flamboie. Les ajoncs sont en fête, et dorent les ravins où les abeilles font des murmures divins. Penché sur les cressons, le myosotis goûte à la source, tombant dans les fleurs goutte à goutte. Le brin d'herbe est heureux. L'âcre hiver se dissout, la nature paraît contente d'avoir tout, parfum, chanson, rayon, et d'être hospitalière. L'espace aime. Je suis sorti de la volière, tenant toujours l'oiseau. Je me suis approché du vieux balcon de bois par le lierre caché. Ô renouveau, soleil, tout palpite, tout vibre, tout rayonne, et j'ai dit, ouvrant la main, sois libre. L'oiseau s'est évadé dans les rameaux flottants et dans l'immensité splendide du printemps, et j'ai vu s'en aller au loin la petite âme dans cette clarté rose où se mêle une flamme, dans l'air profond, parmi les arbres infinis, volant aux vagues appels des amours et des nids, planant éperdument vers d'autres ailes blanches, ne sachant quel palais choisir, courant aux branches, aux fleurs, aux flots, au bois fraîchement reverdi, avec l'effarement d'entrer au paradis. Alors, dans la lumière et dans la transparence, regardant cette fuite et cette délivrance, et ce pauvre être ainsi disparu dans le port, pensif, je me suis dit, je viens d'être la mort. Fin de La mise en liberté. L'art d'être grand-père, 11e partie. Jeanne lapidée. Bruxelles, nuit du 27 mai. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 11e partie. Jeanne lapidée. Bruxelles, nuit du 27 mai. Je regardais. Je vis, tout près de la croisée, celui par qui la pierre avait été lancée. Il était jeune, encore presque un enfant, déjà un meurtrier. Jeune homme, un Dieu te protégea, car tu pouvais tuer cette pauvre petite. Comme les sentiments humains s'écroulent vite dans les cœurs gouvernés par le prêtre qui ment, et comme un imbécile est féroce, aisément. Loyola s'est changé Jocrisse en Schinderhan, car un tigre est toujours possible dans un âne. Mais Dieu n'a pas permis, sombre enfant, que ta main fît cet assassinat catholique et romain. Le coup a manqué. Va, triste spectre éphémère, deviens de l'ombre. Fuis, moi, je songe à ta mère. Ô femme, ne sois pas maudite. Je reçois du ciel juste un rayon clément. Qui que tu sois, mère, hélas, quel que soit ton enfant, sois béni. N'en sois pas responsable et n'en sois pas puni. Je lui pardonne au nom de mon ange innocent. Lui-même, il fut jadis l'être humble en qui descend l'immense paradis, sans pleurs, sans deuil, sans voile, avec tout son sourire et toutes ses étoiles. Quand il naquit, de joie et d'amour tu vibras. Il dormait sur ton sein comme Jeanne en mes bras. Il était de ton toit le mystérieux hôte. C'était un ange alors, et ce n'est pas ta faute, ni la sienne, s'il est un bandit maintenant. Le prêtre, infortuné lui-même et frissonnant, à qui nous confions la croissance future, imposteur, a rempli cette âme d'imposture. L'aveugle a dans ce cœur vidé l'aveuglement. À ce lugubre élève, à ce maître inclément, je pardonne. Le mal a des pièges sans nombre. Je les plains. Et j'implore au-dessus de nous l'ombre. Pauvre mère, ton fils ne sait pas ce qu'il fait. Quand Dieu germait en lui, le prêtre l'étouffait. Aujourd'hui, le voilà dans cette forêt noire, le dogme. Ignace ordonne, il est prêt à tout boire, le faux, le vrai, le bien, le mal, l'erreur, le sang. Tout. Frappe, il obéit. Assassine, il consent. Hélas, comment veut-on que je lui sois sévère? Le sommet qui fait grâce au gouffre et le calvaire. Morne bourreau, à nous martyrs vous vous fiez, et nous, les lapidés et les crucifiés, nous absolvons le vil caillou, le clou stupide. Nous pardonnons. C'est juste. Ah, ton fils me lapide, mère, et je te bénis, et je fais mon devoir. Un jour tu mourras, femme, et puisses-tu le voir se frapper la poitrine à genoux sur ta fosse. Puisse-t-il voir s'éteindre en lui la clarté fausse et sentir dans son cœur s'allumer le vrai feu et croire moins au prêtre et croire plus à Dieu. Fin de Bruxelles, nuit du 27 mai. L'art d'être grand-père, 12e partie. Jeanne endormie. Jeanne dort. Elle laisse, ô pauvre ange banni. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 12e partie. Jeanne endormie. Jeanne dort. Elle laisse, ô pauvre ange banni. Jeanne dort. Elle laisse, ô pauvre ange banni, sa douce petite âme aller dans l'infini. Ainsi le passereau fuit dans la cerisée. Elle regarde ailleurs que sur terre. Elle essaye, hélas, avant de boire à nos coupes de fiel, de renouer un peu dans l'ombre avec le ciel. Apaisement sacré. Ses cheveux, son haleine, son teint, plus transparent qu'une aile de phalène. Ses gestes indistincts, son calme, c'est exquis. Le vieux grand-père, esclave heureux, pays conquis, la contemple. Cet être est ici-bas le moindre et le plus grand. On voit sur cette bouche poindre un rire vague et pur qui vient on ne sait d'où. Comme elle est belle. Elle a des plis de graisse au cou. On la respire ainsi qu'un parfum d'asphodèle. Une poupée aux yeux étonnés est près d'elle, et l'enfant par moments la presse sur son cœur. Figurez-vous cet ange obscur, tremblant, vainqueur, l'espérance étoilée autour de ce visage, ce pied nu, ce sommeil d'une grâce en bas âge. Oh, quel profond sourire, et compris de lui seul. Elle rapportera de l'ombre à son aïeul. Car l'âme de l'enfant, pas encore dédorée, semble être une lueur du lointain empiré. Et l'attendrissement des vieillards, c'est de voir que le matin veut bien se mêler à leur soir. Ne la réveillez pas. Cela dort, une rose. Jeanne, au fond du sommeil, médite et se compose je ne sais quoi de plus céleste que le ciel. De lys en lys, de rêve en rêve, on fait son miel, et l'âme de l'enfant travaille, humble et vermeille, dans les songes ainsi que dans les fleurs l'abeille. Fin de Jeanne endormie. L'art d'être grand-père, 13e partie. L'épopée du lion. 1. Le paladin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 13e partie. L'épopée du lion. 1. Le paladin. Un lion avait pris un enfant dans sa gueule, et, sans lui faire mal, dans la forêt, aïeul des sources et des nids, il l'avait emporté. Il l'avait, comme on cueille une fleur en été, saisi sans trop savoir pourquoi, n'ayant pas même mordu dedans, mépris fier ou pardon suprême. Les lions sont ainsi, sombres et généreux. Le pauvre petit prince était fort malheureux. Dans l'antre, qu'emplissait la grande voix bourrue, blotti, tremblant, nourri d'herbes et de viande crue, il vivait, presque mort et d'horreur hébété. C'était un frais garçon, fils du roi d'à côté. Tout jeune, ayant 10 ans, âge tendre où l'œil brille. Et le roi n'avait plus qu'une petite fille, nouvelle-née, ayant 2 ans à peine. Aussi, le roi qui vieillissait n'avait-il qu'un souci. Son héritier en proie au monstre. Et la province qui craignait le lion plus encore que le prince était fort effarée. Un héros qui passait dans le pays fit halte et dit « Qu'est-ce que c'est ?» On lui dit l'aventure, il s'en alla vers l'antre. Un creux où le soleil lui-même est pâle et n'entre qu'avec précaution. c'était l'antre où vivait l'énorme bête, ayant le rocher pour chevet. Le bois avait, dans l'ombre et sur un marécage, plus de rameaux que n'a de barreau une cage. Cette forêt était digne de ce consul. Un menhir s'y dressait, en l'honneur d'Irmensul. La forêt ressemblait aux alliés de Bretagne. Elle avait pour limite une rude montagne, un de ces durs sommets où l'horizon finit. Et la caverne était taillée en plein granit, avec un entourage orageux de grands chênes. Les antres, aux cités rendant haine pour haine, contiennent on ne sait quel sombre talion. Les chênes murmuraient « Respectez le lion !» Le héros pénétra dans ce palais sauvage. L'antre avait ce grand air de meurtre et de ravage qui sied à la maison des puissants, de l'effroi, de l'ombre, et l'on sentait qu'on était chez un roi. Des ossements à terre indiquaient que le maître ne se laissait manquer de rien. Une fenêtre faite par quelques coups de tonnerre au plafond l'éclairait. Une brume où la lueur se fond, qui semble aurore à l'aigle et nuit à la chouette, c'est toute la clarté qu'un conquérant souhaite. Du reste, c'était haut et fier. On comprenait que l'être altier couchait sur un lit de genêt et n'avait pas besoin de rideaux de guipure, et qu'il buvait du sang, mais aussi de l'eau pure, simplement, sans valet, sans coupe et sans hanap. Le chevalier était armé de pied en cap. Il entra. Tout de suite, il vit dans la tanière un des plus grands seigneurs couronnés de crinières qu'on pût voir. Et c'était la bête. Elle pensait. Et son regard était profond, car nul ne sait si les monstres des bois n'en sont pas les pontifes. Et ce lion était un maître aux larges griffes, sinistre, point facile à décontenancer. Le héros approcha, mais sans trop avancer. Son pas était sonore, et sa plume était rouge. Il ne fit remuer rien dans l'auguste bouge. La bête était plongée en ses réflexions. Thésée entrant au gouffre où sont les ixions et les sisyphes nus et les flots de l'Averne, vit à peu près la même implacable caverne. Le paladin, à qui le devoir disait « Va !» tira l'épée. Alors le lion souleva sa tête doucement d'une façon terrible. Et le chevalier dit « Salut, ô bête terrible !» Tu caches dans les trous de ton antre un enfant. J'ai beau fouiller des yeux ton repère étouffant, je ne l'aperçois pas. Or, je viens le reprendre. Nous serons bons amis si tu veux me le rendre. Sinon, je suis lion aussi, moi. Tu mourras. Et le père étreindra son enfant dans ses bras pendant qu'ici ton sang fumera, tiède encore. Et c'est ce que verra demain la blonde aurore. Et le lion pensif lui dit « Je ne crois pas. » Sur quoi, le chevalier farouche fit un pas, brandit sa grande épée et dit « Prends garde, sire !» On vit le lion, chose effrayante, sourire. Ne faites pas sourire un lion. Le duel s'engagea comme il sied entre géants, cruel. Tels que ceux qui de l'Inde ensanglantent les jungles. L'homme allongea son glaive et la bête ses ongles. On se prit corps à corps, et le monstre écumant se mit à manier l'homme effroyablement. L'un était le vaillant et l'autre le vorace. Le lion étreignit la chair sous la cuirasse, et, fauve, et, sous sa griffe ardente pétrissant ce fer et cet acier, il fit jaillir le sang du sombre écrasement de toute cette armure, comme un enfant rougit ses doigts dans une mûre. Et puis, l'un après l'autre, il ôta les morceaux du casque et des brassards et mit à nu les os. Et le grand chevalier n'était plus qu'une espèce de boue et de limon sous la cuirasse épaisse. Et le lion mangea le héros. puis il mit sa tête sur le roc sinistre et s'endormit. 2. L'ermite. Alors vint un ermite. Il s'avança vers l'antre, grave et tremblant, sa croix au poing, sa corde au ventre. Il entra. Le héros tout rongé gisait là, informe, et le lion, se réveillant, bâilla. Le monstre ouvrit les yeux, entendit une haleine, et voyant une corde autour d'un froc de laine, un grand capuchon noir, un homme là-dedans, acheva de bâiller, montrant toutes ses dents. Puis, auguste, et parlant comme une porte-grince, il dit « Que veux-tu, toi ?»« Mon roi ? Quel roi ? Mon prince ? Qui ? L'enfant ? C'est cela que tu nommes un roi ?» L'ermite salua le lion. « Roi, pourquoi as-tu pris cet enfant ?»« Parce que je m'ennuie. Il me tient compagnie ici les jours de pluie. Rends-le-moi. » « Non, je l'ai. »« Qu'en veux-tu faire, enfin ?»« Le veux-tu donc manger ?»« Dame, si j'avais faim. » »« Songe au père, à son deuil, à sa douleur amère. » »« Les hommes m'ont tué la lionne, ma mère. »« Le père est roi, seigneur, comme toi ?»« Pas autant. » »« S'il parle, c'est un homme, et moi, quand on m'entend, c'est le lion. » Si le père ce fils, il a sa fille. Une fille, c'est peu pour un roi. Ma famille à moi, c'est l'âpre roche et la fauve forêt, et l'éclair qui parfois sur ma tête apparaît. Je m'en contente. Sois clément pour une altesse. La clémence n'est pas. Tout est de la tristesse. Veux-tu le paradis? Je t'offre le blanc-seing du bon Dieu. Va-t'en. « Vieil imbécile de saint !» L'ermite s'en alla. 3. La chasse et la nuit. Le lion solitaire, plein de l'immense oubli qu'ont les monstres sur terre, se rendormit, laissant l'intègre nuit venir. La lune parut, fit un spectre du menhir, de l'étang à linceul, du sentier un mensonge, et du noir paysage inexprimable un songe. Et rien ne bougea plus dans la grotte, et, pendant que les astres sacrés marchaient vers l'occident et que l'herbe abritait la taupe et la cigale, la respiration du grand lion, égale et calme, rassurait les bêtes dans les bois. Tout à coup des clameurs, des cors et des abois. Un de ces bruits de meute et d'homme et de cuivre qui font que brusquement les forêts semblent ivres et que la nymphe écoute en tremblant dans son lit. La rumeur d'une chasse épouvantable emplit toute cette ombre, lac, montagne, bois, prairies, et troubla cette vaste et fauve rêverie. Le hallier s'empourpra de tous les sombres jeux d'une lueur mêlée à des cris orageux. On entendait hurler les chiens chercheurs de proie, et des ombres couraient parmi les claires voix. Cette altière rumeur d'avance triomphait. On eût dit une armée. Et c'était en effet des soldats envoyés par le roi, par le père, pour délivrer le prince et forcer le repère, et rapporter la peau sanglante du lion. De quel côté de l'ombre est la rébellion? Du côté de la bête ou du côté de l'homme? Dieu seul le sait. Tout est le chiffre, il est la somme. Les soldats avaient fait un repas copieux, étaient en bon état, armés d'arcs et d'épieux, en grand nombre, et conduits par un fier capitaine. Quelques-uns revenaient d'une guerre lointaine, et tous étaient des gens éprouvés et vaillants. Le lion entendait tous ces bruits malveillants, car il avait rouvert sa tragique paupière. Mais sa tête restait paisible sur la pierre, et seulement sa queue énorme remuait. au dehors, tout autour du grand antre muet, hurlait le brouhaha de la foule indignée. Comme un essaim bourdonne autour d'une araignée, comme une ruche autour d'un ours pris au lacet, toute la légion des chasseurs frémissait. Elle s'était rangée en ordre de bataille. On savait que le monstre était de haute taille, qu'il mangeait un héros comme un singe une noix, qu'il était plus hautain qu'un tigre né sournois, que son regard faisait baisser les yeux à l'aigle. Aussi lui faisait-on l'honneur d'un siège en règle. La troupe, à coups de hache, abattait les fourrés. Les soldats avançaient l'un sur l'autre serrés, et les archers tendaient sur la corde les flèches. On fit silence, afin que sur les feuilles sèches on entendît les pas du lion s'il venait. Et les chiens, qui selon le moment où l'on est, savent se taire, allaient devant eux, gueule ouverte, mais sans bruit. Les flambeaux dans la bruyère verte rôdaient, et leur lumière allongée en avant éclairait ce chaos d'arbres tremblant au vent. C'est ainsi qu'une chasse habile se gouverne. On voyait à travers les branches la caverne, sorte de masse informe au fond du bois épais, béante mais muette, ayant un air de paix et de rêve, et semblant ignorer cette armée. D'un âtre où le feu couve, il sort de la fumée, d'une ville assiégée on entend le beffroi, ici rien de pareil, avec un vague effroi, tous observés, le poing sur l'arc ou sur la pique, cette tranquillité sombre de l'entrépique. Les dogues chuchotaient entre eux je ne sais quoi. De l'horreur qui dans l'ombre obscure se tient quoi, c'est plus inquiétant qu'un fracas de tempête. Cependant, on était venu pour cette bête. On avançait, les yeux fixés sur la forêt, et non sans redouter ce que l'on désirait. Les éclaireurs guettaient, élevant leurs lanternes. On regardait le seuil béant de la caverne. Les arbres frissonnaient, silencieux témoins. On marchait en bon ordre, on était 1000 au moins. Tout à coup, apparut la face formidable. On vit le lion. Tout devint inabordable sur le champ, et les bois parurent agrandis. Ce fut un tremblement parmi les plus hardis, mais, fût-ce en frémissant, de vaillants archers tirent, et sur le grand lion les flèches s'abattirent. Un tourbillon de dards le cribla. Le lion, pas plus que sous l'orage, ossa ni pélion ne s'émeuve, fronça son poil, et grave, austère, secoua la plupart des flèches sur la terre. D'autres, sur qui ces dards se seraient enfoncés, auraient certes trouvé qu'il en restait assez, ou se seraient enfuis. Le sang rayait sa croupe. Mais il n'y prit point garde, et regarda la troupe. Et ses hommes, troublés d'être en un pareil lieu, doutaient s'il était monstre ou bien s'il était dieu. Les chiens, muets, cherchaient l'abri des fers de lance. Alors, le fier lion poussa, dans ce silence, à travers les grands bois et les marais dormants, un de ces monstrueux et noirs rugissements, qui sont plus effrayants que tout ce qu'on vénère, et qui font qu'à demi réveillé, le tonnerre dit dans le ciel profond, « Qui donc tonne là-bas ?» Tout fut fini. La fuite emporte les combats, comme le vent la brume, et toute cette armée, dissoute, aux quatre coins de l'horizon semé, s'évanouit devant l'horrible grondement. Tous, chefs, soldats, ce fut l'affaire d'un moment, croyant être en des lieux surhumains où se forme on ne sait quel courroux de la nature énorme, disparurent, tremblants, rampants, perdus, cachés, et le monstre cria. Monts et forêts, sachez qu'un lion libre est plus que 1000 hommes esclaves. Les bêtes ont le cri comme un volcan les lave, et cette éruption qui monte au firmament d'ordinaire suffit à leur apaisement. Les lions sont sereins plus que les dieux peut-être. Jadis, quand l'éclatante Olympe était le maître, les Hercules disaient « Si nous étranglions à la fin, une fois pour toutes, les lions. » Et les lions disaient « Faisons grâce aux Hercules. » Pourtant, ce lion-ci, fils des noirs crépuscules, resta sinistre, obscur, sombre. Il était de ceux qui sont à se calmer, rétifs et paresseux, et sa colère était d'une espèce farouche. La bête veut dormir quand le soleil se couche. Il lui déplaît d'avoir affaire aux chiens rampants. Ce lion venait d'être en butte au guet-apens. On venait d'insulter la forêt magnanime. Il monta sur le mont, se dressa sur la cime, et reprit la parole, et, comme le semeur jette sa graine au loin, prolongea sa clameur, de façon que le roi l'entendit dans sa ville. « Roi, tu m'as attaqué d'une manière vile. Je n'ai point jusqu'ici fait mal à ton garçon. Mais, roi, je t'avertis, par-dessus l'horizon, que j'entrerai demain dans ta ville à l'aurore, que je t'apporterai l'enfant vivant encore, que j'invite à me voir entrer tous tes valets, et que je mangerai ton fils dans ton palais. » La nuit passa, laissant les ruisseaux fuir sous l'herbe, et la nuée errer au fond du ciel superbe. Le lendemain, on vit dans la ville ceci. L'aurore, le désert, des gens criant merci, fuyant, face d'effroi bien vite disparu, et le vaste lion qui marchait dans les rues. 4. L'aurore. Le blême peuple était dans les caves épars. À quoi bon résister? Pas un homme au rempart. Les portes de la ville étaient grandes ouvertes. Ces bêtes à demi divines sont couvertes d'une telle épouvante et d'un doute si noir. Leur antre est un si morne et si puissant manoir qu'il est décidément presque impie et peu sage quand il leur plaît d'errer, d'être sur leur passage. Vers le palais chargé d'un dôme d'or massif, le lion à pas lents s'acheminait pensif, encore tout hérissé des flèches dégainées. Une écorce de chêne a des coups de cognée, mais l'arbre n'en meurt pas, et, sans voir un archer, grave, il continuait d'aller et de marcher. Et le peuple tremblait, laissant la bête seule. Le lion avançait, tranquille, et dans sa gueule effroyable, il avait l'enfant évanoui. Un petit prince est-il un petit homme? Oui. Et la sainte pitié pleurait dans les ténèbres. Le doux captif, livide entre ses crocs funèbres, était des deux côtés de la gueule pendant. Pâle, mais n'avait pas encore un coup de dent. Et, cette proie étant un bâillon dans sa bouche, le lion ne pouvait rugir, ennui farouche pour un monstre. Et son calme était très furieux. Son silence augmentait la flamme de ses yeux. Aucun arc ne brillait dans aucune embrasure. Peut-être craignait-on qu'une flèche peu sûre, tremblante, mal lancée au monstre triomphant, ne manquât le lion et ne tuât l'enfant. Comme il l'avait promis, par-dessus la montagne, le monstre, méprisant la ville comme un bagne, alla droit au palais, las de voir tout trembler, espérant trouver là quelqu'un à qui parler. La porte ouverte, ainsi qu'au vent le jonc frissonne, vacillait. Il entra dans le palais. Personne. Tout en pleurant son fils, le roi s'était enfui et caché comme tous, voulant vivre aussi, lui, s'estimant au bonheur des peuples nécessaire. Une bête féroce est un être sincère et n'aime point la peur. Le lion se sentit honteux d'être si grand, l'homme étant si petit. Il se dit, dans la nuit qu'un lion a pour âme, « C'est bien, je mangerai le fils, quel père infâme !» Terrible. Après la cour, prenant le corridor, il se mit à rôder sous les hauts plafonds d'or. Il vit le trône et rien dedans. Des chambres vertes, jaunes, rouges, aux seuils vides, toutes désertes. Le monstre allait de salle en salle, pas à pas, affreux, cherchant un lien commode à son repas. Il avait faim. Soudain, l'effrayant marcheur fauve s'arrêta. Près du parc en fleurs, dans une alcôve, un pauvre être, oublié dans la fuite, bercé par l'immense humble rêve à l'enfance versé, inondé de soleil à travers la charmille, se réveillait. C'était une petite fille, l'autre enfant du roi. Seule et nue, elle chantait. Car l'enfant chante même alors que tout se tait. Une ineffable voix, plus tendre qu'une lyre, une petite bouche avec un grand sourire, un ange dans un tas de joujoux, un berceau, crèche pour un Jésus ou nid pour un oiseau, deux profonds yeux bleus, pleins de clartés inconnues, col nu, pieds nus, bras nus, ventre nu, jambes nues, une brassière blanche allant jusqu'au nombril, un astre dans l'azur, un rayon en avril, un lys du ciel daignant sur cette terre éclore. Tel était cet enfant plus douce que l'aurore. Et le lion venait d'apercevoir cela. Il entra dans la chambre, et le plancher trembla. Par-dessus les jouets qui couvraient une table, le lion avança sa tête épouvantable. Sombre en sa majesté de monstre et d'empereur, et sa proie en sa gueule augmentait son horreur. L'enfant le vit. L'enfant cria « Frère, mon frère, ah, mon frère !» Et debout, rose dans la lumière, qui l'a divinisé et qui l'a réchauffé, regarda ce géant des bois, dont l'œil eût fait reculer les typhons et fuir les briarées. Qui sait ce qui se passe en ces têtes sacrées? Elle se dressa droite au bord du lit étroit et menaça le monstre avec son petit doigt. Alors, près du berceau de soie et de dentelle, le grand lion posa son frère devant elle, comme eût fait une mère en abaissant les bras, et lui dit « Le voici, là, ne te fâche pas. » Fin de l'épopée du lion. L'art d'être grand-père, 14e partie, a des âmes envolées. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 14e partie, à des âmes envolées. Ces âmes que tu rappelles, mon cœur, ne reviennent pas. Pourquoi donc s'obstinent-elles, hélas, à rester là-bas? Dans les sphères éclatantes, dans l'azur et les rayons, sont-elles donc plus contentes qu'avec nous qui les aimions? Nous avions sous les tonnelles une maison près Saint-Leu, comme les fleurs étaient belles, comme le ciel était bleu. Parmi les feuilles tombées, nous courions au bois vermeil, nous cherchions des scarabées sur les vieux murs au soleil. On riait de ce bon rire qu'Éden jadis entendit, ayant toujours à se dire ce qu'on s'était déjà dit. Je comptais la mer Loire. On était heureux, Dieu sait. On poussait des cris de joie pour un oiseau qui passait. Fin de À des âmes envolées. L'art d'être grand-père, 15e partie. Laus Puero. 1. Les enfants gâtés. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 15e partie. Laus Puero. 1. Les enfants gâtés. En me voyant si peu redoutable aux enfants, et si rêveur devant les marmots triomphants, les hommes sérieux froncent leurs sourcils mornes. Un grand-père échappé, passant toutes les bornes, c'est moi. Triste, infini dans la paternité, je ne suis rien qu'un bon vieux sourire entêté. Ces chers petits, je suis grand-père sans mesure, je suis l'ancêtre aimant ces nains que l'aube azure, et regardant parfois la lune avec ennui, et la voulant pour eux, et même un peu pour lui. Pas raisonnable, enfin, c'est terrible. Je règne mal, et je ne veux pas que mon peuple me craigne. Or mon peuple, c'est Jeanne et Georges. Et moi, barbon, aïeul sans frein, ayant cette rage être bon, je leur fais enjamber toutes les lois, et j'ose pousser aux attentats leur république rose. La popularité malsaine me séduit. Certes, on passe au vieillard, qu'attend la froide nuit, son amour pour la grâce et le rire et l'aurore. Mais des petits, qui n'ont pas fait de crime encore, je vous demande un peu si le grand-père doit être anarchique au point de leur montrer du doigt, comme pouvant dans l'ombre avoir des aventures, l'auguste armoire où sont les pots de confiture. Oui, j'ai pour eux, parfois, ménagère pleurée, consommé le viol de ces vases sacrés. Je suis affreux. Pour eux, je grimpe sur des chaises. Si je vois dans un coin une assiette de fraises réservée au dessert de nous autres, je dis « Oh, chers petits oiseaux goulus du paradis, c'est à vous. Voyez-vous, en bas, sous la fenêtre, ces enfants pauvres, l'un vient à peine de naître, ils ont faim. Faites-les monter et partagez. » Jetons le masque. Eh bien, je tiens pour préjugé, oui, je tiens pour erreur stupide les maximes qui veulent interdire aux grands aigles les cimes, l'amour au sein d'albâtre et la joie aux enfants. Je nous trouve ennuyeux, assommants, étouffants. Je ris quand nous enflons notre colère, d'homme, pour empêcher l'enfant de cueillir une pomme, et quand nous permettons un faux serment au roi. Défends moins tes pommiers et défends mieux tes droits, paysan. Quand l'opprobre est une mère qui monte, quand je vois le bourgeois voter oui pour sa honte, quand Scapin est évêque et Basile banquier, quand, ainsi qu'on remue un pion sur l'échiquier, un aventurier pose un forfait sur la France et le joue, impassible et sombre, avec la chance d'être forçat s'il perd et s'il gagne empereur, quand on le laisse faire et qu'on voit sans fureur régner la trahison abrutie en orgie, alors dans les berceaux, moi je me réfugie. Je m'enfuis dans la douce aurore et j'aime mieux cet essaim d'innocents, petits démons joyeux, faisant tout ce qui peut leur passer par la tête, que la foule acceptant le crime en pleine fête et tout ce bas empire infâme dans Paris et les enfants gâtés que les pères pourris. Fin de Les enfants gâtés. L'art d'être grand-père, 15e partie, Laus Puero, 2, Le syllabus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 15e partie, Laus Puero, 2, Le syllabus. Tout en mangeant d'un air effaré vos oranges, vous semblez aujourd'hui, mes tremblants petits anges, me redouter un peu. Pourquoi ? C'est ma bonté qu'il faut toujours attendre, Jeanne, et c'est le devoir de l'aïeul d'être tendre et du ciel d'être bleu. N'ayez pas peur. C'est vrai, j'ai l'air fâché, je gronde, non contre vous. Hélas, enfant. Dans ce vil monde, le prêtre est aimant. Et voyez-vous, j'entends jusqu'en nos verts asiles un sombre brouhaha de choses imbéciles qui passent en ce moment. Les prêtres font de l'ombre. Ah, je veux m'y soustraire. La plaine resplendit. Viens, Jeanne, avec ton frère. Viens, Georges, avec ta sœur. Un rayon sort du lac. L'aube est dans la chaumière. Ce qui monte de tout vers Dieu, c'est la lumière, et d'eux, c'est la noirceur. J'aime une petitesse, et je déteste l'autre. Je hais leur bégaiement, et j'adore le vôtre. Enfant, quand vous parlez, je me penche, écoutant ce que dit l'âme pure, et je crois entrevoir une vague ouverture des grands cieux étoilés. Car vous étiez hier, ô doux parleurs étranges, les interlocuteurs des astres et des anges. En vous rien n'est mauvais. Vous m'apportez, à moi sur qui gronde la nue, on ne sait quel rayon de l'aurore inconnue. Vous en venez, j'y vais. Ce que vous dites sort du firmament austère. Quelque chose de plus que l'homme et que la terre est dans vos jeunes yeux. Et votre voix, où rien n'insulte, où rien ne blâme, où rien ne mord, s'ajoute au vaste épithalame des bois mystérieux. Ce doux balbutiement me plaît, je le préfère, car j'y sens l'idéal. J'ai l'air de ne rien faire dans les fauves forêts, et pourtant Dieu sait bien que tout le jour j'écoute l'eau tomber d'un plafond de rochers goutte à goutte au fond des entrefrais. Ce qu'on appelle mort et ce qu'on nomme vie parlent la même langue à l'âme inassouvie. En bas nous étouffons, mais rêver, c'est planer dans les apothéoses, c'est comprendre, et les nids disent les mêmes choses que les tombeaux profonds. Les prêtres vont criant « Anathème, anathème !» Mais la nature dit de toutes parts « Je t'aime !» Venez, enfant, le jour est partout, et partout on voit la joie éclore, et l'infini n'a pas plus d'azur et d'aurore que l'âme n'a d'amour. J'ai fait la grosse voix contre ces noirs pygmées, mais ne me craignez pas, les fleurs sont embaumées, les bois sont triomphants. Le printemps est la fête immense et nous en sommes. Venez, j'ai quelquefois fait peur aux petits hommes, non aux petits enfants. Fin de Le Syllabus. L'art d'être grand-père, 15e partie, Laus Puero, 3. Enveloppe d'une pièce de monnaie dans une quête faite par Jeanne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 15e partie, Laus Puero. 3. Enveloppe d'une pièce de monnaie dans une quête faite par Jeanne. Mes amis, qui veut de la joie? Moi? Toi? Vous? Eh bien, donnons tous. Donnons aux pauvres à genoux. Le soir, de peur qu'on ne nous voie. Le pauvre, en pleurs sur le chemin, nu sur son grabat misérable, affamé, tremblant, incurable, est l'essayeur du cœur humain. Qui le repousse en est plus morne, qui l'assiste s'en va content. Ce vieux homme humble et grelottant, ce spectre du coin de la borne, cet infirme aux pas alourdis, peut faire, en notre âme troublée, descendre la joie étoilée des profondeurs du paradis. Êtes-vous sombre? Oui, vous l'êtes. Eh bien, donnez, donnez encore, riche, en échange d'un peu d'or ou d'un peu d'argent que tu jettes, indifférent, parfois moqueur, à l'indigent dans sa chaumière, Dieu te donne de la lumière dont tu peux te remplir le cœur. Vois, pour ton sequin, blanc ou jaune, vis le sou que tu crois précieux, Dieu t'offre une étoile des cieux dans la main tendue à l'aumône. Fin de Enveloppe d'une pièce de monnaie dans une quête faite par Jeanne. L'art d'être grand-père, 15e partie, Laus Puero, 4. À propos de la loi dite liberté de l'enseignement. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 15e partie, Laus Puero, à propos de la loi dite « Liberté de l'enseignement ». Prêtre, vous complotez de nous sauver, à l'aide des ténèbres, qui sont en effet le remède contre l'astre et le jour. Vous faites l'homme libre au moyen d'une chaîne. Vous avez découvert cette vertu, la haine, le crime étant l'amour. Vous êtes l'innombrable attaquant, le sublime. L'esprit humain, colosse, a pour tête la cime des hautes vérités. Fatalement, ce front qui se dresse dans l'ombre attire à sa clarté le fourmillement sombre des dogmes irrités. En vain, le grand lion rugit, gronde, extermine. L'insecte vil s'acharne, et toujours la vermine fit tout ce qu'elle put. Nous méprisons l'immonde essaim qui tourbillonne. Nous vous laissons bruire, et contre Babylone, insurger Lilliput. Pas plus qu'on ne verrait sous l'assaut des cloportes et l'effort des Sirons tomber Thèbes aux 100 portes et Ninive aux 100 tours. Pas plus qu'on ne verrait se dissiper le Pinde ou l'Olympe ou l'immense Himalaya de l'Inde sous un vol de vautours. On ne verra crouler, sous vos battements d'ailes, Voltaire et Diderot, ces fermes citadelles, Platon qu'Horace aimait, et ce vieux Dante ouvert au fond des cieux qu'il dort, sur le noir passé, comme une porte d'aurore sur un sombre sommet. Ce rocher, ce granit, ce mont, la pyramide, debout dans l'ouragan sur le sable numide, hanté par les esprits, s'aperçoit-il qu'il est, lui, l'âpre hiéroglyphe, insulté par la fiente ou rayé par la griffe de la chauve-souris? Non. L'avenir ne peut mourir de vos morsures. Les flèches du matin sont divines et sûres. Nous vaincrons, nous voyons. Erreur, le vrai vous tue. Ô nuit, le jour te vise. Et nous ne craignons pas que jamais l'aube épuise son carquois de rayons. Donc, soyez dédaignés sous la voûte éternelle. L'idéal n'aura pas moins d'aube en sa prunelle parce que vous vivrez. La réalité rit et pardonne aux mensonges. Quant à moi, je serai satisfait, moi qui songe devant les cieux sacrés, tant que Jeanne sera mon guide sur la terre, tant que Dieu permettra que j'aie, ô pur mystère, en mon âpre chemin, ces deux bonheurs où tient tout l'idéal possible. Dans l'âme, un astre immense, et dans ma main paisible, une petite main. Fin de À propos de la loi dite Liberté de l'enseignement.